Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I need a bodyguard.
I believe it.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties en lien avec le polar. Alors on va faire une série de deux émissions là autour du polar avec toute l'équipe. Tout d'abord, plutôt une émission qui tourne autour de l'univers du polar et du film noir, mais un peu du film noir aussi revu et corrigé. Et puis, dans une prochaine émission, on sera plus thriller. Alors, on en reparlera le moment venu. On va d'abord causer de films qui utilisent le film noir pour nourrir des visions, on va dire, autorisantes. Comme par exemple Les Dieux de la Peste et Le Soldat Américain, qui sont des films de 69 et de 70 de Rainer Werner Fassbinder, qui viennent de sortir là dans le coffret Fassbinder volume 3 de chez Carlotta Film. Et puis Un zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon, un film de 87 qui lui sort chez Artus Film, qui sont vraiment des trois films qui tournent autour de l'univers du film noir. Et puis après, on va aller vraiment à la source. On va retourner un peu en arrière, évidemment. Et on va partir de La femme à abattre, un film de 51, alors qu'il n'a pas toujours été attribué à Raoul Walsh. On sait maintenant que c'est lui qui l'a réalisé. Je vous en dirai plus tout à l'heure, qui est disponible là chez Rimini Éditions. On parlera aussi, toujours chez Rimini Éditions, d'un film plus, comment dire, plus fun, qui s'appelle Le Hold Up du siècle, un film de 66 de Jacques Donohue, qui aurait pu être mis aussi dans les thrillers, les films d'action. Voilà, c'est un film qui est à mi-chemin entre plusieurs genres. On abordera aussi Le Syndicat du Meurtre, un film de 68 de John Guillermin, un réalisateur assez sous-estimé quand même, que nous on aime bien à Culture Prohibée. Ça c'est sorti chez Elephant Film. On parlera ensuite de trois films sortis chez Elephant Film, des films vraiment particuliers parce que chacun à leur manière ils revisitent un genre. Il y a Top Secret, un film de Blake Edwards de 74 qui revisite aussi un peu le film d'espionnage. Il y a Adieu ma jolie de 75 de Dick Richard. Alors là on est dans une complète revisite du film noir, et on continue avec une relecture là, d'un grand classique, Le Grand Sommeil de Michael Winner, un film de 78. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez, Timothée Tricard et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer polar, film noir, voilà, je suis aujourd'hui accompagné de deux individus louches qui me feraient peur si je les croisais dans un tripot clandestin, mais bon, je ne vais pas dans les tripots clandestins, donc du coup, le problème, il est réglé. Je veux bien sûr parler de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projections Perdues, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien Demé.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Alors lui, il n'est pas sur YouTube. Lui, il traîne la nuit, les nuits de pleine lune, et il faut mieux pas le croiser à ce moment-là. Certains s'en souviennent encore, mais ils sont plus là pour le raconter, en fait. C'est tout le problème. Cette phrase ne veut rien dire. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, donc, chaque nuit de pleine lune, rédige deux sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Jérôme. Bonjour, Damien. Et bien sûr, bonjour à toutes.
Ein Traum, schön und erschreckend.
Alors, si on parle Allemagne et puis film d'auteur, il y a un auteur, enfin parmi d'autres, mais en tout cas dans les auteurs qui ont vraiment éclos dans la nouvelle vague allemande, il y a quelques auteurs. Bon, il va y avoir Herzog, évidemment, il va y avoir Wenders, et puis il y a Fassbinder. Enfin, Fassbinder, c'est vraiment un incontournable. Et Fassbinder, bon, on le connaît pour des films comme Querelle, on le connaît pour tous ses travaux avec Anna Chigula, ça d'ailleurs, elle est là dans les films, on va en parler. Carlotta ressort petit à petit comme ça, ce qui était sorti en DVD, les coffrets, et là, ils les sortent en Blu-ray. Et là, on a dans le volume 3 qui vient de sortir des films qui font partie de la tétralogie des faux films noirs de Fassbinder. Alors dans Les Dieux de la Paix, on a Franz qui sort de prison pour retrouver sa petite amie et qui projette d'attaquer un supermarché. Alors on est vraiment là, hein, évidemment, sur de ce qu'on appelle des films d'auteurs maudits, hein, on peut dire ça, qui fricotent de près ou de loin avec le genre qui nous intéresse. Et ce film-là, il a un stade particulier qui se passe à une époque où encore Fassbinder n'a pas encore des gros budgets, enfin, il y a une certaine économie de moyens, mais le film quand même s'inscrit dans une vraie continuité d'auteur, puisque c'est la suite de L'amour est plus froid que la mort, avec le personnage de Franz Walsh qui revient. Et c'est encore une fois un film avec comme ça un enchaînement de plans fixes, avec des évidemment de l'amitié, voire des amours masculines contrariées. On est chez Fassbinder quand même. Et tout cela tourne en fait à l'exercice de style autour du film noir, puisque Fassbinder va en extraire en fait l'aspect romantique, mais pour presque le congeler, quoi. Anna Chigula est froide comme un glaçon, et il y a il y a de la scopophilie, mais qui est triste, quoi. On voit déjà arriver les quartiers où l'immigration est là, et où il y a une sorte aussi qui règne, une sorte de misère, mais aussi de misère sexuelle. Alors le film se veut clairement de référent au film noir, parce que on y parle anglais, on fait référence à Robert Aldrich, et puis il y a aussi dans ce film cette idée de braquage de supermarché là, quelque chose qui tient de la version désaxée en fait d'un après-midi de chien de Dumet. Enfin, faut voir le film pour comprendre. Je vais pas trop en dévoiler, mais bon, je trouve quand même que le jeu sur les stéréotypes au final fait que c'est un film qui est justement très ancré dans les stéréotypes, et avec cette esthétique quand même très lugubre, hein, de cette période de Fassbinder, qui est un esthète, mais qui est aussi quelqu'un qui peut faire quelque chose de très, très lugubre. L'autre film, là, Le soldat américain, on suit, là, c'est pareil, on suit encore un personnage qui est uniquement déterminé par son statut. Par exemple, dans Les Dieux de la Peste, c'est un gangster, donc il agit comme un gangster. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qui le motive. Et là, on a la même chose avec ce personnage, qui pourtant est un personnage qui aurait pu donner lieu à d'autres interprétations, mais bon, qui est un gangster américain, mais qui a passé son enfance à Munich et qui revient de la guerre du Vietnam. Et trois inspecteurs de police le chargent de liquider les criminels qui ne peuvent pas arrêter. Voilà. Et il va croiser qui ? Son vieil ami Franz Walsh, hein, qui est joué par Fassbinder, hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais bon. Et donc, à partir de là, ce film qui va boucler le cycle de films noirs de Fassbinder, alors il va jusqu'au bout. Il va complètement jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, il continue de jouer avec les stéréotypes, mais il va plus loin, y compris esthétiquement. Il y a un final au ralenti, on se demande même si John Woo l'a vu. Hein. Il y a même de l'humour par moments, assez étonnant. Enfin, il y a de l'humour chez Fassbinder, mais là, il y a un humour presque absurde qui est assez étonnant. Et puis, il y a évidemment l'homo-érotisme, quoi. Ça, c'est clair. Et aussi, d'un autre côté, une sorte de misère sexuelle. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Mais le film, il est intéressant, surtout parce que il aborde... Enfin, il fait quelque chose que le cinéma américain avait déjà fait, mais il dépeint. Parce qu'en Allemagne, c'est quand même différent. La police n'est pas armée, tout ça. Donc, en Allemagne, suite à la guerre, d'ailleurs, ça va poser problème lors de la fameuse prise d'otage de Munich en 78. Et on a quand même une police qui est quand même dépeinte comme un gang. Et ça, c'est un truc qui ne se fait pas tant que ça dans le cinéma allemand. Et puis, il y a aussi un autre truc que le film aborde et qui va revenir dans les films de Fassbinder, c'est la présence américaine en Allemagne. C'est un sujet qui est... Alors, c'est sous-jacent, c'est... Voilà, mais c'est clairement là. À signaler que les deux films sont accompagnés de deux courts. Proche du noir aussi, il y a Le Clochard, un court-métrage de 66 dans lequel un SDF essaye de se débarrasser d'un flingue trouvé dans la rue. Et il y a Le Petit Chaos, un film de 67 dans lequel trois jeunes tentent de cambrioler une femme. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, hein, c'est très complet. Si vous aimez Fassbinder, vous passerez un bon moment. Bah pour les autres, c'est tenter l'expérience, vous verrez bien. Et puis, autre film, alors, surprise, hein, un film sorti chez Artus Film, qui sort chez Artus Film, Un zoo la nuit, un film de Jean-Claude Lauzon, un film de 87, un film québécois. Jean-Claude Lauzon, c'est qui a réalisé Léolo, hein, qui est un film culte, hein, pour certains cinéphiles. Bon, moi, j'ai un peu de mal avec l'esthétisme de Léolo. Hein, je trouve que c'est un film très, très particulier. Mais en tout cas, c'est une vraie proposition de cinéma. Et là, ça raconte l'histoire. Alors, Un zoo la nuit, ça utilise vraiment tous les archétypes du film noir. C'est-à-dire qu'on a Marcel qui sort de prison. Il a passé 2 ans en tôle. Il cherche à renouer avec son ex, Julie. Il est aussi, il essaye de retrouver aussi son père, Albert, qui a été abandonné par sa femme. Et évidemment, il a des emmerdes, parce qu'il y a deux policiers ripoux qui veulent récupérer le produit d'une vente de drogue et qui donc le menacent. Et après, comme ça, il pourra retrouver son père et lui offrir un cadeau d'adieu. Une dernière partie de chasse, quelque part dans un zoo la nuit, d'où le titre, Un zoo la nuit. Alors, le film est assez singulier. C'est surtout un film sur plus qu'un film noir, en fait, en vérité. C'est un film sur l'incommunicabilité entre un père et son fils. Et l'argument polar, c'est ces deux policiers qui essayent de retrouver cet argent planqué suite à une vente de cocaïne, quoi. C'est un film assez désespérant, quand même. Enfin, c'est différent de Léolo. Hein, et c'est aussi l'occasion de revenir sur ce type, Jean-Claude Lauzon, alors plus développé dans l'édition, mais c'est un type qui a une vie assez dingue, courte, intense, qui a fait plein de métiers. Il a fait des études secondaires, qu'il a quitté pour aller travailler dans le tabac. Après, il a travaillé dans les champs de maïs dans l'Ontario. Il a bossé à l'usine, il a été bibliothécaire. Il a été plongeur sous-marin, spécialisé dans la plongée en décompression. Il a participé à l'implantation de la médecine hyperbare au Québec. Il était instructeur, il a enseigné la discipline, il a fait une formation en design et photographie, il a enseigné la plongée, il a fait plein de métiers, il a été chauffeur de taxi, il a refait des études, il a été journaliste, et puis il a commencé à faire des films. Il en a fait assez peu. Il a commencé à faire des films et ses films sont devenus cultes aujourd'hui au Québec, mais à l'époque, il a vécu un mauvais accueil critique et il s'apprêtait à faire un troisième film quand il s'est crashé en avion, en fait. Alors, il a été couvert de prix, hein, pendant toute sa carrière, mais du coup, elle s'est arrêtée brutalement et il n'est pas allé au bout, il n'a pas pu continuer à développer son regard qui était singulier, hein, un regard assez sensible et en même temps exacerbé, c'est assez déconcertant. Et Un zoo la nuit, ça reste un film singulier qui est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs films produits par le Québec, un vrai classique, qui donc est un film qui s'amuse avec les codes du film noir. et qui est publié donc par Artus Film. Mais un film qui est plus étonnant, là, c'est un vrai film noir, là, par contre, dont je vais vous parler. C'est un film de 51. Ça s'appelle La femme à abattre. Et c'est sorti chez Rimini.
2,000 human beings who lived among us. You may have passed some of them on the street, even spoken to some. But this is the number of people who are dead. Yes, dead, because they were murdered by the most infamous syndicate of professional killers in the history of crime. A syndicate of assassins that went virtually unchallenged until one man fearlessly defied their whole evil empire.
I got something to say to you that you want to hear.
If you're smart, you can be a hero.
If you're dumb, you can be dead.
And so began an adventure that took this enforcer of the law into the shadows, where overlords of the underworld ruled a dynasty of death. Here he fought the master craftsmen of murder for profit, murder without passion, exposed their classrooms of crime, even the grim ambitions that turned killer against killer in violent lust for power. It's Humphrey Bogart in the most driving role of his career as the relentless manhunter the underworld knew as the Enforcer.
You think you can shut people up by killing them, but you're wrong. Even the dead can talk.
So you're gonna talk. It's the only chance you've got to live.
I'm afraid he'll never die.
He'll die, he's got to die, and you're gonna kill him.
Attention, everybody. Attention. This is the police. Angela Fetto. Your life is in danger. Wherever you are, get off the street.
I'll wait here a few seconds, and then I'll pick her up myself.
But suppose they don't fall for it and follow you?
I'll have to risk that. Here, you better take a friend
with you. Vous écoutez Culture Point. C'est un film qui devait être au départ signé de Bretagne Windust. Eh oui, je vois vos regards interloqués. Et pourtant, il faut croire que les studios à l'époque misaient beaucoup sur ce réalisateur. Et donc là, pour ce film, The Enforcer, donc La femme à abattre, en titre français, il est, au bout de quelques jours de tournage, il tombe malade. Et Humphrey Bogart, qui joue le rôle principal du film, demande à Raoul Walsh de le remplacer quelques jours, le temps que le cinéaste se remette de sa maladie. Et en fait, il va être malade plus longtemps que prévu. Et alors, il va continuer à travailler après, il va guérir. Hein. Mais là, en tout cas, il ne pourra jamais finir le film. Donc en fait, c'est Raoul Walsh qui fait la 99% du film et qui tourne le film. Et pourtant, Raoul Walsh n'est pas crédité parce que, alors c'est quand même la classe quand même, Raoul Walsh n'a pas voulu être crédité parce que c'était l'occasion pour Bretagne Windust de faire un film qui allait cartonner avec Humphrey Bogart et l'occasion pour lui d'entrer dans le métier. Donc il ne voulait pas empêcher Bretagne Windust de pouvoir travailler par la suite donc, et de pouvoir avoir une reconnaissance. Donc il a choisi de retirer complètement son nom du film. Mais on sait aujourd'hui que c'est Raoul Walsh qui a fait le film. Et Bretagne Windust, lui, derrière, il a quasiment travaillé que pour la télé. On n'a jamais entendu parler de lui au cinéma. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le dit, voilà, on le sait enfin, que ce film est réalisé par Raoul Walsh, et ça se sent. C'est un film très, très, très maîtrisé. C'est, comment dire, l'histoire d'Humphrey Bogart, qui est un procureur, en fait, et qui est, il est bien, bien tendu, comme tout le film, hein, d'ailleurs, qui est un film hard-boiled, vraiment tendu, sec, âpre. Il a un témoin clé pour faire tomber le caïd Ted de Corsia. Mais comment... son témoin clé finit par mourir accidentellement, évidemment. Et il a quelques heures pour le remplacer et retrouver une jeune fille qui pourrait faire tomber le gangster numéro 1, Everett Sloan, inventeur du crime organisé. Alors il paraît que c'est le premier film où on parlait de contrat et de hit. Plus tard, on parlera de Hitman, tout ça, ça deviendrait une expression pour les tueurs à gages. En tout cas, moi, ce que je retiens du film, c'est un film que je ne connaissais pas du tout, et c'est un film très nerveux, et surtout c'est un film brillant parce que le film est construit en flashbacks qui s'imbriquent les uns dans les autres, donc c'est pas c'est pas n'importe quel metteur en scène qui peut réussir ça. Et il y a une photo très belle, on est dans quelque chose de clair-obscur, très réussi. Et il y a un tueur fou qui est campé par Jack Lambert qui est excellent. Et puis il y a quand même Bogart pour son dernier film pour la Warner, hein, et qui est au top. Franchement, on se croirait dans du Anthony Mann de la période Brigade des Suicidés, tout ça, vraiment de la grande période. C'est vraiment du très très bon film noir. On s'ennuie pas une seconde. Il y a aucune psychologisation, en fait. Tout passe par l'image. Enfin bref. Un film à voir absolument. Ça s'appelle La femme à abattre, c'est un film de 51. C'est donc un film de Raoul Walsh, en vérité, voilà, avec Humphrey Bogart. Et c'est disponible chez Rimini. Toujours chez Rimini. Alors un film un peu plus anecdotique, on va dire, et qui est un film avec une autre légende. Là, on est en 66, hein, on est plus tard que le précédent. Une autre légende, à savoir Frank Sinatra. Autre légende donc du Rat Pack, lui aussi. Hein. Bogart n'était pas du Rat Pack, hein, mais Sinatra du Rat Pack. Et en tout cas, avec Bogart, il constitue une grande légende. On le rattache souvent aussi Sinatra à la figure du banditisme. Et le film en plus propose un super casting dans lequel on retrouve aussi Richard Conte, qui lui aussi est un adepte du film noir parmi les meilleurs. Et puis il y a aussi Anthony Franciosa, il y a la belle Virna Lizzi. Et qu'est-ce que c'est que ce film qui s'appelle Le Hold-up du siècle? En fait, il a un autre titre qui est Comment braquer un paquebot, qui est beaucoup plus adapté en fait à ce que raconte vraiment le film. Et là, c'est un groupe de chasseurs de trésors qui planifie une attaque à main armée d'un paquebot de croisière de luxe, le Queen Mary, et qui, pour ce faire, va utiliser un sous-marin allemand. Pourquoi faire compliqué, hein, ouais, quand on peut faire simple. Un sous-marin allemand qui a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, le titre original, c'était Assault on the Queen, l'attaque du Queen. Voilà, c'est-à-dire du Queen Mary. Et là, ça, effectivement, c'est un peu plus clair. Alors, comme beaucoup de films de cette époque, il y a toute une brochette de stars. Au scénario, a signalé Rod Serling, l'inventeur de la quatrième dimension, qui adapte un bouquin de Jack Finney. Le film est vraiment typique. Alors, c'est marrant parce qu'il mélange à la fois ses films de braquage et un peu ses films de commando, un peu le genre de film qui va disparaître en fait dès les années 80, avec l'apogée des héros seuls, musculeux, l'Amérique réganienne, les Rambo et compagnie, qui à eux tout seuls peuvent battre 100 personnes. Le film, totalement invraisemblable, malgré tout, se suit avec un bonheur fou. C'est complètement fun, c'est distrayant. C'est une sorte de pendant sous-marin, en fait, au délirant Bon baiser d'Athènes de George Pancosmatos, ressorti récemment chez Elephant Film. Mais, comment dire, voilà, on ne peut que vous conseiller ce film, qui est une agréable série B, aussi invraisemblable qu'amusante, et qui est disponible donc chez Rimini Édition. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial polar et film noir.
Thank you.
va vous parler de deux films sortis donc chez le Pachyderme, chez Elephant Film, qui sont Syndicat du meurtre et Top Secret, qui sont pour moi les deux films là de la salve là qui sortent du lot, qui sont des vraies découvertes en tout cas. Dans le Syndicat du meurtre, on a George Peppard. Eh oui, George Peppard, on connaît tous aujourd'hui pour l'agence Tourisque, le plan qui se déroule sans accroc, Hannibal. Mais il a eu une période de gloire hein, où il y avait des films qui se montaient sur son nom. Et là, en fait, il est P.J. Detweiler. C'est un détective privé, mais alors, qui est vraiment dans une loose totale. Alors, il est vraiment, lui, il est au fond du trou. Il doit du pognon. Donc là, on est la lie de la profession quand on se met à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il accepte de mettre en scène des adultères, il accepte de se faire tabasser pour $50, enfin voilà, il va pas bien quand même. Hein. Et il est embauché pour être le garde du corps de la belle Maureen Prebble, qui est interprétée par Gail Unicutt. Autant dire que, bon, il y a pire hein, pour un loser que de se retrouver à garder le corps de Gail Unicutt, quand même. C'est un sacré vénard. Et cette jeune femme, ravissante, est la maîtresse du mystérieux William Orbison. Non, pas le genre de mec qui écrit des tubes musicaux. Hein. Pas ce Orbison-là. Non. Là, un drôle de type, interprété par Raymond Burr, qui est vraiment un acteur habitué à jouer des rôles de mecs pas sympathiques quand même, Raymond Burr, en fait, globalement. Hein. C'est pas que l'homme de fer. Hein. Et soi-disant, qui serait victime de menaces, tout ça. Donc, il faudrait protéger cette femme. Alors, John Guillermin derrière la caméra, on l'oublie un peu, mais quand même, John Guillermin, c'est un cinéaste très, très efficace. Hein. C'est un cinéaste qui faisait des films vraiment très rythmés, très intéressants, qui annonçait en fait quelque part un peu la vague des thrillers paranoïaques et tout qui allait arriver dans les années à venir. Et là, bon, bah, notre privé... qui a quand même comme seul ami qu'un barman. Hein. Donc c'est dire que dans la loose, mais total, hein, le mec. Hein. Là, ça se passe un peu mieux. Il voyage, hein. il va jusqu'aux Caraïbes. Hein. Donc aux Caraïbes, Gail Unicutt, c'est quand même sympa. Mais alors là, il va en prendre plein la tronche. Il va en prendre plein la tronche. Ça va être vraiment, violent. Et malgré tout, il va rester, parce que c'est George Peppard, quand même. Il va rester, George Peppard oblige, cool et compétent. Parce qu'il s'était un peu oublié quoi, dans la loose. Mais en fait, c'est un super bon détective privé. Et au final, donc, c'est un très étrange polar qui mêle film noir, film d'aventure et exotique. C'est une sorte de transition, en fait, avant la double révolution que constitueront dans les années à venir French Connection et puis Dirty Harry. Hein. On est dans la fin un peu de ces polars de la coolitude très typique des 60s où il y a aussi un petit côté James Bond. Hein, le type tombe à l'eau, sa chemise est sèche, quoi, voilà, ce genre de truc. Donc c'est à voir, mais le vrai film là, qu'a sorti Elephant Film, qui pour moi doit être vu absolument, c'est Top Secret. Top Secret, donc pour le dire à la française, de Blake Edwards. On l'a qui est sorti en 73. C'est un Blake Edwards méconnu, hein, de l'homme qui a quand même signé The Party, La Panthère Rose, et qui en fait est un cinéaste assez protéiforme. Et on l'ignore assez souvent. En fait, il a œuvré dans tous les genres, y compris dans le film noir, dont on en parle depuis le début de cette émission. Et là, le film est une sorte de relecture des films d'espionnage tels qu'ils étaient faits à l'époque. C'est très étonnant. Il y a un générique qui est conçu par Maurice Binder, évidemment, puisque c'est lui qui fait les génériques des James Bond. Il y a une musique de John Barry. Tiens, on est encore chez James Bond. Il va extraire y compris des génériques. Hein. On est extrait de l'aspect romanesque de tous ces films d'espionnage des années 60, pour aller vers quelque chose de mélancolique. Et on va, dans cette histoire qui est ultra basique, hein, en fait, hein. On est aux Caraïbes, comme dans le film précédent, on a Julie Andrews, elle est secrétaire du ministère des Affaires étrangères britannique, elle va rencontrer Omar Sharif, qui campe Féodor Sverdlov, qui est un attaché militaire de l'ambassade soviétique à Paris. Et ils vont se mettre à s'aimer. Sauf que leur hiérarchie soupçonne quelque chose, évidemment. C'est encore la guerre froide, tout ça, donc ils n'ont pas le droit de s'aimer. Et on soupçonne que c'est une fausse relation pour justement se refiler des infos. Et eux, ils vont essayer de prouver leur bonne foi, et là, ils vont découvrir involontairement qu'un agent double s'est infiltré dans les hautes sphères du pouvoir britannique, sauf que du coup, ça met leur propre vie en danger. Et à partir de là, démarre cet étrange film sur une passion amoureuse pendant la guerre froide, dans le milieu de l'espionnage. Un film qui va casser le genre bondien, donc à l'image de son générique, comme je vous le disais tout à l'heure. Un film qui va être anti-spectaculaire au possible, très 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 étonnamment, où on va voyager à Paris, Londres, les Barbades, et en fait, tous ces lieux-là sont dévitalisés, hein, vidés de leurs clichés, vidés de leur potentiel spectaculaire, et du coup ça devient... Top secret, c'est une version incroyablement sinistre en fait et émouvante de la geste bondienne. Et c'est vraiment un très grand film à redécouvrir. Décidément, Blake Edwards, c'est un cinéaste absolument exceptionnel. On ne le dira jamais assez. Ça s'appelle Top Secret et c'est disponible chez Elephant Film. Top Secret, donc c'est de Blake Edwards et c'est chez Elephant Film, tout comme Adieu ma jolie de Dick Richards. Avec Robert Mitchum. Je précise que la dernière partie de l'émission va être une spéciale Robert Mitchum. On va parler de films avec Robert Mitchum. Un film de Dick Richards, un film américain, un film de 75, donc aussi chez Elephant Film, qui est là aussi une revisite amère hein, d'un mythe, en l'occurrence le mythe de Philip Marlowe.
Los Angeles, 1941. Le détective Philip Marlowe baigne dans son whisky aussi bien que dans cette ville nauséabonde. Il est engagé par Moose Mallet. Vous savez, Moose Mallet, il sort de tôle, il y a passé 7 ans. La prison, ça transforme les garçons en hommes et les hommes en hommes. Cet ex-tôleur s'est retrouvé sa belle, sa douce, Velma, son ancienne petite amie qu'il a perdu de vue parce qu'il était en prison. Ça semble être une enquête simple, une enquête basique, et comme n'importe quelle enquête d'un film noir, c'est bien plus que ça. Pression, enlèvement, tentative d'assassinat. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi toute la ville fond sur Philip Marlowe pour l'empêcher de retrouver cette douce Velma ? Adieu ma jolie, c'est l'adaptation d'un des romans qui est lié au personnage de Philip Marlowe, personnage inventé par Raymond Chandler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le deuxième livre qui parle de lui, qui se passe dans les années 40. Et justement, ce film se passe dans les années 40. Incroyable. Ici, on a en effet, comme le disait Jérôme, Robert Mitchum, le grand Robert Mitchum, qui joue ici Philippe Marneau, détective noir assez classique, totalement désabusé, mais comme n'importe quel détective noir et désabusé. Dans le film, on va avoir Silverstone Stallone qui va passer une petite tête, mais surtout, on va avoir Charlotte Rampling en Helen Grey qui va être la femme fatale, celle qui va le faire tomber assez vite dans ses bras et dans ses draps. Ce qui est intéressant avec le film dès le départ, c'est qu'on est vraiment dans cette ambiance noire, ce détective avec sa voix off en mode un peu journal privé qui est dans son bureau. Il rencontre Mousse, il manque de se faire assassiner. Au départ, on se dit que c'est pour lui, mais non, c'était pour Mousse, ce qui fait que Mousse va être un personnage assez particulier parce que lui, il a qu'un seul objectif, c'est retrouver sa douce. Il a que quelques mots en bouche, c'est « est-ce que tu as avancé sur l'enquête ?» Et généralement, la seule autre façon qu'il a de communiquer, c'est de frapper les gens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va visiter différents lieux de cette ville. C'est-à-dire que l'un des premiers lieux dans lequel on se retrouve assez rapidement, c'est un bar pour les Noirs, uniquement pour les Noirs, où Mousse rentre de façon fracassante avant de laisser un mort, avant de repartir. On va avoir la banlieue américaine, pas la prestigieuse, mais un peu celle des bas-fonds, où les gens sont des mobilhomes et boivent de l'alcool. On va avoir tout à la fin un bateau-restaurant de luxe. On a bien une ambiance assez intéressante, mi-luxe, mi-bas-fond. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'histoire se met en place. C'est-à-dire qu'on va rencontrer plusieurs personnages au fur et à mesure. Chaque personnage recherche un peu un truc différent. Mais plus l'histoire va avancer, plus tout va se retrouver extrêmement bien ficelé vers justement la fin où tout se relie et tous ces personnages qui étaient aussi différents l'un des autres trouvent sens. C'est un film qui était extrêmement sympathique à regarder et en fait, il a vraiment, si j'appuyais sur le fait qu'il avait vraiment ce truc classique de film noir, c'est qu'il a vraiment ce truc classique de film noir. On y retrouve un peu tous les clichés, mais qu'il arrive à les développer pour les rendre plus attractifs. Il arrive à renouveler un peu ce qu'il fait pendant qu'il le fait.
Alors, comme l'a dit sans doute Mousse en voyant partir Velma, adieu ma jolie.
Eh bien non, Damien, non, je refuse ces adieux. D'abord, tu as encore quelques chroniques à faire dans cette émission. Hein. Oui, alors le film de Dick Richard, alors c'est une vraie belle surprise parce que c'est un réalisateur qui a fait très peu de films et qui a fait un Psycho Killer un peu culte, mais qui n'est pas un grand film, qui s'appelle La Vallée de la Mort, dont on a déjà parlé dans cette émission. Effectivement, il y a un petit malfrat qui est joué par Stallone. Et bon, il y a aussi, comme quoi le film est vraiment ancré dans l'univers du film noir, il y a aussi un juge qui est joué par Jim Thompson, qui a écrit quelques romans policiers quand même. Hein. Et justement, le c'est vrai que le film joue de ça, c'est-à-dire de... Parce que c'est quand même la troisième fois que le roman il est adapté. Alors, la première version, je ne l'ai pas vue. C'est signé Irving Rice, un film de 1942, mais j'ai vu celle d'Edouard Mitrick en 1944. Qui s'appelle Adieu ma belle, voilà, qui est très bien. Mais cette version-là, je sais pas, là, un petit supplément d'âme, elle a un petit truc en plus. Il y a un côté esthétique aussi qui est particulier. Le film, il est particulier esthétiquement, parce qu'il rend hommage au film noir avec une esthétique de son époque. Donc c'est quand même particulier.
Petit truc en plus, ce serait pas de la couleur
Oui et non, parce qu'il y a des... Justement, il joue pas le côté. Il joue pas avec la saturation de l'image et tout. On est sur une esthétique, mais vraiment qui anticipe en plus plutôt une esthétique des années 80. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant pour un film qui rend hommage à un cinéma des années 40-50. Et lui, esthétiquement, il fait un film qui ressemblera au film de la décennie suivante, par contre avec une histoire qui est totalement dans les archétypes du film noir. Donc c'est quand même assez particulier et c'est assez étonnant de la part de ce réalisateur, Dick Richard. En plus, c'est un film qui joue clairement avec l'image de Marlowe, d'un Marlowe parce que très fatigué, parce que et l'image de Mitchum, parce que Mitchum arrive à... Il dit que dès le début, je crois que sa première phrase, il dit qu'il est crevé, qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus. Voilà. Et qu'il se rend compte qu'il est vieux. Et ça, c'est très drôle. C'est une sorte de parabole sur ce qui est devenu le film noir. Effectivement, c'est très vieux. Et en même temps, lui, il arrive à le revitaliser. Vraiment, il faudra se pencher un jour sur l'apport de Charlotte Rampling à la figure de la femme fatale.
Parce qu'en fin de compte, alors là, en creusant rapidement, c'est pendant que tu en parlais, Damien, je me suis mis à recenser. En tout cas, il y a tout de suite deux autres films qui me sont revenus à l'esprit. C'est chez Jacques Deray, hein, dans cette relecture aussi d'un polar de Robin Cook qui s'appelle « On ne meurt que deux fois » où elle est une femme fatale vraiment particulièrement envoûtante. Et la même chose dans « La chair de l'orchidée » d'après James Hadley Chase de Patrice Chéreau où elle marque les esprits. Elle avait vraiment une beauté très particulière, Charlotte Rampling, hein, avec un visage très très singulier.
La chair de l'orchidée qui sort la même année que justement Adieu ma jolie. Donc elle était dans sa phase femme fatale à ce moment-là.
Ben voilà, faut croire. Mais en tout cas, c'était c'est vraiment pour moi en tout cas, elle apporte vraiment quelque chose. Elle a un magnétisme hors du commun, je trouve. Elle est très très charismatique. Et puis bon, après tu l'as bien résumé. C'est les dialogues sont ciselés, l'ambiance est particulièrement inquiétante. Il y a vraiment énormément de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, je l'ai expliqué, cette histoire d'esthétique, le film en fait a quelque chose du cinéma de Ridley Scott et de Tony Scott, de ce que feront plus tard les frères Scott. C'est assez étonnant. Surtout que Dick Richards n'a pas du tout une carrière phénoménale. Hein. Il a réalisé très peu de films. Celui qu'on retient principalement, c'est celui-là. Donc c'est assez étonnant et bah, c'est à redécouvrir Adieu ma jolie, donc une enquête de Marlowe. Et la musique aussi de David Shire, ça joue, il y est pour beaucoup aussi parce que c'est vraiment un très très bon compositeur aussi. Mais bon, on va dire adieu, c'est vrai Damien, on va dire adieu à notre jolie Velma Hélène, à notre jolie Charlotte Rampling. Et on va dire adieu à notre ami Robert Mitchum. Et puis on va le retrouver, Robert Mitchum, dans là aussi une revisite de Philippe Marlowe, mais là une revisite avec une délocalisation. Hein, ils osent tous, ces Britanniques et ces Américains, quand ils font des films. Je veux bien sûr parler du Grand Sommeil, revu et corrigé par Michael Winner, et qui est là aussi donc disponible chez Elephant Films. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial polar et film noir.
Thank you. Bob Mitchum trimballe sa carcasse nonchalante du smog de Los Angeles au fog de Londres, dans Le Grand Sommeil, vu par Michael Winner, donc réalisé en Angleterre. Et la bonne idée de Michael Winner, ce n'est pas de faire de Philippe Marlowe un Anglais, donc il reste un détective privé américain dans un milieu, on va dire, plutôt guindé, bourgeois, anglais. Et c'est là où le film est plutôt intéressant, c'est dans ce choc de culture, on va dire, de civilisation entre ces deux façons de voir la vie. Alors, Le Grand Sommeil, c'est un film comme un peu compliqué à résumer. Même Howard Hawks n'y arrivait pas quand il a réalisé sa propre version. Raymond Chandler non plus. Et donc, c'est l'histoire d'un militaire en retraite qui fait appel à Philippe Marlowe pour une banale histoire de chantage. Voilà, il veut trouver qui le fait chanter par rapport à sa fille qui serait un peu dévergondée ou quelque chose comme ça. À partir de là, il y a un scénario à tiroir. Il va découvrir d'autres choses. Il va découvrir de plus en plus de malfrats, de complots. Enfin, c'est assez alambiqué quand même. Et ce qui fait beaucoup la différence, outre le fait qu'il met un personnage américain dans une atmosphère plutôt anglaise, c'est que Michael Winner n'a pas la classe de Howard Hawks. Hein. Michael Winner, c'est plutôt un réalisateur assez trivial. Et donc, le film propose des séquences plutôt assez triviales, à base d'érotisme, bon marché, on va dire, puis de violence, qui renoue quand même un peu avec la violence de Raymond Chandler. Hein. On n'est pas tout à fait dans cette violence, celle de Hawks. Hein. Là, c'est beaucoup plus brut, on est vraiment dans une forme de trivialité. Notamment, il y a un moment, il y a un personnage qui est empoisonné. Bon, Michael Winner, il montre. Hein, c'est pas un mec qui fait dans le hors-champ. Il y a une fusillade à la fin qui est assez brutale aussi. Il y a Bob Mitchum qui balade sa carcasse nonchalante de personnage de détective privé désabusé, qui comprend très vite ce qui se passe, et puis qui bizarrement a aussi une éthique. Il ne profite pas des choses, il ne profite pas des gens, il ne les arnaque pas. C'est un personnage assez étrange à cerner, hein, ce personnage de Philippe Marlowe. Hein.
En fait, quand on le présente en détective, moi, on s'attend à ce qu'il ait un peu ce rôle d'anti-héros qu'il a, mais il a quand même, entre guillemets, un bon cœur, c'est-à-dire qu'il aide les gens, parfois qu'il donne de l'argent en plus. Et là, en plus de transférer l'action en Angleterre, en fait, on change aussi la période parce qu'on n'est plus dans les années 40, on est un peu plus avancé dans le temps, dans les années 70. Et en fait, les deux films sont un peu les reflets de leur époque, mais avec le même personnage à deux endroits différents, ce qui est assez amusant à regarder. Comme tu as dit, Thomas, on a ce vieux militaire qui a réussi sa carrière, vu qu'il a une très belle demeure et qu'il a beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on le fait chanter. Ces deux filles, dont les deux sont... particulière, l'une jouée par Sarah Maël, l'autre par Candy Clark. Les deux n'ont pas les mêmes problèmes, mais toutes les deux ont des problèmes. L'une aime bien passer son temps dans les casinos, l'autre aime bien passer à poser pour des futurs magazines de fesses. Donc, elles ont deux vies très, très particulières et très mouvementées, mais c'est vraiment intéressant d'avoir ce changement d'époque, mais de garder le même personnage au final.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Michael Winner ne cherche pas à faire du beau. Hein, c'est ce que je dis, c'est son côté trivial. Hein, il ne cherche pas à faire du beau. Il y a cette grisaille londonienne. Hein. Parfois, on se croirait dans un épisode de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Hein, il y a un moment, il poursuit un gars qui sort d'une librairie. Le gars, il a un petit paquet discret sous le bras. Bon, on devine ce que c'est. Hein. Et il poursuit un gars dans des rues de Londres. On dirait vraiment comme si ça sortait d'un épisode de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Il y a cette étrangeté dans ce film. C'est très étrange comme version de Philip Marlowe par Michael Winner. C'était un pari assez bizarre.
Même la course poursuite en elle-même est drôle parce que le gars qui est au parquet est le stéréotype anglais, donc il marche avec une canne et quand il commence à se faire poursuivre, il marche juste plus vite avec sa canne. Il y a uniquement un moment où il décide vraiment de la jeter pour continuer vraiment à se planquer. Mais il y a déjà un peu plus d'humour que dans le précédent, vu qu'avant c'était surtout les dialogues. Là, on a un peu de gag visuel entre guillemets, mais en effet, on a aussi plus d'action et beaucoup plus de nudité aussi parce qu'on change d'époque et du coup, on change à une relation. Il y a une relation à l'image qui est différente.
Ah, puis on est chez Michael Winner, il n'est jamais avare d'une provocation non plus. Voilà, on le connaît, c'est un cinéaste qu'on connaît bien pour avoir étudié sa filmographie en long, en large, en travers avec Thomas pour le premier Prime Cut, hein, qui est toujours disponible d'ailleurs. Hein.
Toujours unique d'ailleurs.
Toujours unique, voilà.
Et qui est référencé sur la page Wikipédia de Winner en bibliographie.
Ah, bah,
ah bon,
merci. Merci Wikipédia, mais effectivement, il n'y avait aucun autre ouvrage sur Winner en France, de toute façon. Mais, et ce film-là, moi, je suis toujours le premier à défendre Winner. Ce film-là est quand même un peu mineur. Bon, voilà, dans ce café Winner, par contre, on retrouve, oui, alors tu l'as dit, ce goût de la trivialité, ce goût de la provocation, parce que ce personnage de Candy Clark, là, c'est un faux man, elle est un peu ridicule quand même. On a l'impression que Winner fait un enterrement en grande pompe. Et puis il fait de la provoque comme d'hab parce qu'il adore faire de la provoque. Il a fait de la provoque toute sa vie. Même quand il faisait pas de cinéma, il faisait de la provoque. Parce qu'il y a quand même aussi ce James Stewart vieillissant qui est là en vieux patriarche. On sent bien qu'il est fatigué, James Stewart, quand même. Ça fait un peu de peine de voir le sémillant acteur d'Anthony Mann et d'Alfred Hitchcock, quoi, qui est là, bon, et qui a un peu de mal. Et le film, comme ça, il fait alors là, par contre, ressemble vraiment. Autant le film de Dick Richards, dont on a parlé avant, Adieu ma jolie, ressemblait vraiment à une relecture et une modernisation en fait, du film noir en utilisant ses codes classiques, autant là, on est sur une, pour moi, hein, une tentative de modernisation qui échoue, en fait, justement parce qu'on essaye de moderniser, pas par l'esthétique, mais par la trivialité. On essaye, en fait, à la limite, en étant plus d'ailleurs fidèle à Chandler, hein, en plus. Hein, mais du coup, ça passe pas parce que le personnage de Marlowe, il est rattaché à quelque chose de passéiste et pas à quelque chose d'aussi démonstratif et outrancier que le cinéma de Michael Winner. Je pense qu'ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, en fait, les deux, là.
Moi, j'ai l'impression d'un film quand même fait avec une certaine désinvolture. J'y vois une certaine désinvolture dans la mise en scène, dans la direction d'acteur qui est incarnée par... Cette désinvolture est aussi incarnée par Robert Mitchum lui-même. Hein. Mais je sens ça, je sens que c'est un film fait un peu par-dessus la jambe, quoi. À la Michael Winner, quoi.
À la Michael Winner. Mais on rappelle quand même qu'il a fait aussi de très grands films, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi le côté, quand même, il revient en Angleterre, parce qu'on l'oublie, alors, il y a le côté free cinéma aussi chez Michael Winner, qu'il y avait dans ses premiers films, et qu'on retrouve là, parce qu'on oublie que ça a été un enfant... Alors, de la nouvelle vague anglaise, mais différent des autres, parce qu'il est politiquement différent. Mais il a été là-dedans aussi. Il a été dans cette... Et on retrouve un peu... Par contre, il retrouve un peu cet aspect-là. Alors, je ne sais pas du coup si c'est son côté je m'en foutiste ou pas, mais il y a un côté comme ça assez libre dans ce qu'il fait. Mais je trouve quand même que... autant Adieu, ma jolie, pour moi, est un excellent film, autant je trouve que cette relecture du Grand Sommeil, elle est très intéressante. Voilà, parce que j'adore Winner et que je trouve que c'est un cinéaste sous-estimé. Mais malheureusement, c'est pas le film qui va faire réestimer Winner. Il y a plein d'autres films de Winner qu'on n'a pas encore vu dans des belles copies qui mériteraient d'être édités. Mais quoi qu'il en soit, c'est une découverte. Alors, il était déjà sorti, je crois, en DVD hein, chez Elephant Film. Là, c'est une sortie Blu-ray. Mais c'est une découverte à voir. En tout cas, c'est deux traitements du personnage de Philip Marlowe revus à la sauce des années 70 que sont Adieu, ma jolie et Le Grand Sommeil. Alors, le premier de Dick Richards, le deuxième de Michael Winner. C'est sorti chez Elephant Film. Et c'est quand même, pour moi, deux curiosités et deux films singuliers malgré tout parce que je pense que c'est une des versions... Le Winner, là, des plus déjantés, même si c'est pas réussi, mais des plus déjantés qu'on ait pu voir à l'écran du personnage de Philip Marlowe.
she take me money and run Venezuela. $500 was the cost. It was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédy, la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Well, my friends, I'm never to love again. All my money gone in vain. Matilda, she grabbed my money and run Venezuela.
She's a grabber.
Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Once again now, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.